Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Mali, des milliers de personnes ont manifesté leur soutien à l'armée de Bamako. Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Bamako à l'appel de l'opposition pour soutenir l'armée malienne, réclamer un meilleur équipement militaire et l'arrestation des personnes impliquées, selon elle, dans des détournements de fonds destinés à équiper les soldats, ont rapporté en fait des sources d'information. Non au détournement de nos fonds, vive les FAMA, forces armées maliennes, pouvait-on lire sur les banderoles. Et Calico, porté par environ 15 000 manifestants selon les organisateurs, dont l'opposition, plusieurs milliers selon la police. L'armée malienne a été trahie, nos militaires sont mal équipés, nous devrions nous battre pour que nos militaires soient à la hauteur. La corruption a empêché d'équiper aussi nos militaires, a déclaré le chef de l'opposition Soumaïla Cissé. On doit combattre la corruption au sein de l'armée. Les militaires et les ministres qui sont à la base de cette corruption doivent être jugés, a dit l'ancien Premier ministre et opposant Mohamed Ali Batili. Mais ce Sissé Batili faisait allusion notamment à un achat controversé de matériel militaire, dont deux hélicoptères livrés en 2018 à l'armée malienne, puis tombés en panne. Peu après, une information judiciaire a été ouverte à ce sujet en octobre à Bamako. Un rassemblement similaire, le 8 novembre dans la capitale, avait réuni des milliers de personnes. Ces manifestations sont organisées après la perte ces dernières semaines par l'armée malienne d'une centaine de soldats dans les deux attaques terroristes les plus meurtrières depuis des années. Ces revers et la dégradation de la situation sécuritaire ont renforcé les interrogations sur la capacité de l'armée à faire pièce aux agissements terroristes et aux autres violences auxquelles ce vaste pays est en proie depuis 2012 et qui ont fait des milliers de morts civils et combattants. Un autre opposant, le général Moussa Tsinko Koulibaly, ancien candidat à la présidentielle, a réclamé la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Des manifestants ont scandé des slogans anti-français pour dénoncer, selon eux, le jeu ambigu de Paris en Mali, où est présente la force française Barkhane, qui mobilise 4500 militaires français au Sahel. Si Paris ne fait rien pour que la crise prenne fin, c'est parce que Paris soutient les rebelles. Si les rebelles sont toujours à Kidal, c'est la faute de Paris, a déclaré à la presse Oulaïma Tour Diara, 34 ans, enseignante dans un lycée privé de Bamako. Kidal, ville du nord-est du Mali, sous le contrôle d'ex-rebelles séparatistes Touareg, échappe de facto à l'autorité de l'État malien. En Tunisie, un candidat d'Ennahda choisi pour diriger le gouvernement. Le candidat du parti Ennahda, Habib Jemli, a été chargé de former un gouvernement par le président tunisien Kais Saied, après que le chef historique du parti, Rached Kanouchi, a été élu président du Parlement. Le président tunisien Kais Saied a chargé vendredi 15 novembre Habib Jemli de former un gouvernement après que le parti Ennahda, arrivé en tête des élections législatives, a proposé cet ancien secrétaire d'État à ce poste. La jeune démocratie tunisienne a connu au mois d'octobre des élections législatives et présidentielles qui ont vu un grand renouvellement du Parlement et l'arrivée à la tête de l'État d'un universitaire, Kais Saied. Avec seulement un quart des sièges, le parti Ennahda reste cependant le premier groupe de l'Assemblée et son chef historique, Rached Kanouchi, a été élu mercredi président de cette instance. Ennahda a proposé à Habib Jemli pour le poste du gouvernement et a indiqué dans l'après-midi Imad Khemeri, porte-parole de ce mouvement, qui avait jusqu'à ce vendredi pour annoncer le nom de personnalité choisie pour former un exécutif. « L'Union africaine exhorte la communauté mondiale à soutenir une industrialisation accélérée et inclusive en Afrique. L'Union africaine a insisté samedi sur la nécessité de mobiliser les dirigeants africains et mondiaux ainsi que les organisations internationales de développement afin de promouvoir une industrialisation accélérée, durable et inclusive de l'Afrique. Le bloc panafricain de 55 membres a lancé cet appel avant la prochaine sommet de l'industrialisation de l'Afrique qui devrait attirer du 18 au 22 novembre plus de 1000 experts et décideurs africains du siège de l'Union africaine à Addis Abeba sous le thème « Positionner l'industrie africaine pour approvisionner le marché de la zone de libre-échange continentale africaine ». Dans un communiqué publié samedi, l'Union africaine a révélé que la semaine de l'industrialisation continentale envisageait notamment de mobiliser à la fois les dirigeants africains et les autres dirigeants du monde, y compris les organisations internationales de développement, pour plaider en faveur d'une industrialisation accélérée, durable et inclusive de l'Afrique. Selon l'UA, l'événement vise également à promouvoir les startups, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les industries à moyenne et grande capitalisation établies, afin de renforcer la capacité du continent à s'intégrer dans le système mondial de production et de commerce. L'UA espère aussi que cet événement d'une semaine favorisera la mise en œuvre de cadres continentaux tels que le développement industriel accéléré de l'Afrique et la vision de l'industrie minière en Afrique. Selon l'UA, environ 1000 personnes issues du secteur privé, du secteur public, de la société civile, des partenaires de développement et des groupes de réflexion sur le commerce et l'industrie à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique participeront à l'événement. L'Organisation des Nations Unies prolonge le mandat de la MINUSCA pour les élections en Centrafrique. À l'ONU, le mandat de la force onusienne pour la stabilisation de la Centrafrique a non seulement été renouvelé et voté à l'unanimité, un signe de confiance fort, mais il a aussi été élargi ce vendredi 15 novembre. Le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, et le gouvernement centrafricain ont obtenu ce qu'ils avaient demandé au Conseil de sécurité. Ils se souvenaient du rôle primordial qu'avait tenu la force onusienne dans le bon déroulement des élections de 2015-2016. Pour eux, il fallait s'assurer qu'ils en seraient de même pour le scrutin de l'an prochain. Selon le mandat de l'ONU, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA, peut disposer d'effectifs allant jusqu'à 11 650 soldats et 2080 policiers. Confier la coordination logistique et la sécurisation des élections à la MINUSCA est à la base du processus de stabilisation du pays, selon Mankeur Ndiaye. La Centrafrique ne peut pas se payer le risque d'une nouvelle tension. Ce serait un recul. Ce serait l'échec de l'accord de paix, a-t-il souligné. Forum international de Dakar 2019 sur la paix et la sécurité. Les défis actuels du multilatéralisme sont le thème de l'édition 2019 et du Forum international de Dakar qui se tiendra les 18 et 19 novembre dans la capitale sénégalaise Dakar. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani est l'invité d'honneur du Forum cette année. Le premier ministre français Édouard Philippe est également attendu pour cet événement. Dakar sera le hall lieu de paix et de sécurité en Afrique les 18 et 19 novembre, rassemblés dans la capitale sénégalaise, tout ce que le continent compte de séparatistes et experts sur les questions sécuritaires débattront 2 jours durant des stratégies mises en œuvre par les États africains pour faire face aux attaques terroristes. Celles-ci se sont intensifiées au cours des dernières années, plus particulièrement dans les pays sahéliens. C'est dans ce contexte de nouvelles flambées et d'hybrides liquidation de violences terroristes que s'ouvre la nouvelle édition du Forum de Dakar. Compte tenu de la dégradation de l'environnement sécuritaire dans le Sahel, il ne faudrait pas s'étonner que cette région soit au cœur des débats cette année, tout comme le seront sans doute les questions que chacun se pose sur l'efficacité des dispositifs mis en place pour faire face à la violence, déclare Hugo Sada, ancien journaliste et conseiller d'Afrique à la compagnie européenne et de l'intelligence stratégique qui est l'opérateur logistique du Forum international de Dakar. Ce forum organisé par le ministère des Affaires étrangères du Sénégal est une initiative franco-sénégalaise dont l'idée est née lors du sommet de l'Élysée en 2013 dans la foulée de l'opération Serval, intervention militaire française au Mali qui s'est déroulée en janvier de la même année. L'objectif des incitateurs était de mettre en place de manière régulière une grande réunion avec pour thème la défense et la sécurité en Afrique à l'instar du Sangri, la dialogue en Asie ou la réunion d'Abu Dhabi pour les pays musulmans, rappelle Hugo Sada. Les États-Unis ont menacé d'imposer des sanctions à l'Égypte si le pays persiste à vouloir acheter des avions de combat à la Russie. Selon des informations parues jeudi dans The Wall Street Journal, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le secrétaire à la Défense Mark Esper ont envoyé mercredi 13 novembre des lettres d'avertissement au gouvernement du Caire pour le contraindre à renoncer à un accord portant sur l'achat d'avions sur 35 à la Russie. Si l'Égypte n'arrête pas l'achat des Sukhoi 35, ce pays fera l'objet des sanctions américaines, souligne le journal citant les lettres. Selon une autre dépêche en provenance de la région, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, qui s'est rendu en Égypte, s'est entretenu mardi 12 novembre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Moscou est prêt à passer à l'acte pour renforcer les capacités militaires et la puissance défensive de l'armée égyptienne. L'Égypte, qui occupe une bonne place en Afrique, compte parmi les partenaires stratégiques de la Russie dans la région, a-t-il déclaré. Il est à préciser que l'Égypte a signé un contrat de 2 milliards de dollars avec la Russie pour acheter plus de 20 avions de combat multirôles de Sukhoi 35, a rapporté le quotidien russe Kommersant. Le journal a annoncé que plus de 20 avions ainsi que des armes à réaction seraient livrés à l'Égypte entre 2020 et 2021. Selon des sources d'information auprès de l'industrie de la défense russe, les avions de chasse remplaceraient les MiG-21 et les dérivés chinois du J-7. Kommersant suggère que le contrat a été signé en fin de l'année dernière. De même, l'armée de l'air algérienne a décidé de remplacer ses MiG-25 par 18 avions de chasse russes de type Sukhoi 35 de 4e génération. Elle semble également négocier la partie russe de la commande de chasseurs Sukhoi 34. Au Niger, les autorités de Niamey veulent planter 3 millions d'arbres en 2020 pour climatiser la ville. En clôturant ce 15 novembre la session ordinaire du conseil de la délégation spéciale de la ville de Niamey au titre de l'année 2019, le président de cette délégation, Mouktar Mamoudou, a dérouler les différents projets prévus pour l'année 2020. Ainsi, les autorités de la ville de Niamey prévoient de planter jusqu'à 3 millions d'arbres dans la capitale en 2020. Les plantations d'arbres en milieu urbain ont pour effet de réduire la température ambiante ainsi que la pollution. Elles permettent aussi de développer une agriculture urbaine profitable aux populations. Nous allons mettre l'accent sur les espaces verts, la plantation des arbres fruitiers et les jardins maraîchers pour que la ville de Niamey puisse intégrer l'environnement au bénéfice de ses populations, a affirmé Mukhtar Mahmoudou, selon des propos rapportés par Niamey. Et pour y parvenir, ces autorités comptent travailler avec les populations, ce qui permettra de créer des ressources et de l'emploi pour les jeunes et les femmes, particulièrement tout en adaptant l'environnement urbain au réchauffement et climatique. Et au Zimbabwe, un constructeur russe va fournir 100 wagons de transport de marchandises à la compagnie nationale des chemins de fer, les chemins de fer nationaux du Zimbabwe, NRZ, et la compagnie russe UVC ont signé un contrat pour la fourniture de 100 nouveaux wagons de type gondole à toit ouvert. Ce matériel roulant, qui sera livré dans les 12 mois suivant la finalisation de l'accord de financement en cours, sera destiné au transport du charbon, des minerais et des cargaisons entachées entre le Zimbabwe et les pays de la sous-région. En vertu du contrat, UVC fournira un lot de pièces de rechange, d'outils spéciaux et d'équipements d'essai. UVC fournira également à la NRZ une gamme de services d'assistance après-vente, y compris la formation du personnel local chargé des opérations de maintenance. Selon les spécifications, chaque wagon aura une capacité de chargement de 54 tonnes et un volume de caisse de 65 mètres cubes. Il sera équipé de bougies de charge d'essieux de 18,6 tonnes, et ceci conformément aux normes internationales et aux exigences spécifiques liées à la conduite de wagons de fret dans les zones à climat subéquatorial et tropical. À moyen terme, nous serons prêts à négocier davantage de fournitures pour différents types de wagons, y compris les wagons citernes, les wagons plats et les wagons couverts, ainsi que les conditions de mise en place d'un réseau d'installations de maintenance et de montage des wagons au Zimbabwe, a indiqué le directeur général des chemins de fer nationaux du Zimbabwe. Et au Cameroun, la proposition de loi sur la table du Parlement. Le code pénal sera enrichi de deux importantes dispositions qui visent à sanctionner toute atteinte aux races et aux religions ainsi que les outrages à la tribu. Les discours de haine et d'invective des tribus sont de plus en plus fréquents sur la place publique camerounaise. Sur les réseaux sociaux, les discours au relent de repli identitaire ont pris une telle ampleur que les observateurs craignent que ces tensions et insultes ne deviennent une réalité dans le quotidien des Camerounais. Dans plusieurs chaînes de télévision, dont une particulièrement célèbre à Yaoundé, des personnalités se sont régulièrement livrées à des propos à la limite de l'injure à l'endroit de certaines communautés et acteurs politiques camerounais. Des propos et des qualificatifs dont on craint que cela n'embrase l'ensemble des couches de la société, même s'il faut reconnaître que l'actualité nous a servi quelques étincelles, notamment du fait des accrochages observés dans les localités d'Obala et puis Ebolova il y a quelques jours. Eh bien, chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. On va se retrouver la semaine prochaine, et plus précisément dimanche prochain, pour une autre émission et pour aborder ensemble les faits marquants de l'actualité africaine.